dompter les algos à travers la loi. Qu'on le veuille ou non, les algorithmes ont envahi nos vies. Les algos, ils sont partout. Pour mieux nous aider, pour mieux nous accompagner au quotidien, pour nous faciliter la vie dans nos parcours utilisateurs, dans nos vies pro, dans nos vies perso. Mais aussi pour mieux nous cibler, mieux nous enfermer, parfois dans nos bulles et souvent dans notre propre biais. Ils ne peuvent rien faire tout seuls, ces algos, mais ils peuvent nous influencer et influencer toute la planète. Les algorithmes sont capables du meilleur, mais aussi du pire, et si on les met dans des mauvaises mains, gare, gare, gare. Et comme ils n'ont aucune existence juridique morale, ça va être coton pour trouver les responsables en cas de dérapage. Et devine quoi ? Les algorithmes peuvent même influencer le système judiciaire, puisque les algos accompagnent aussi celles et ceux qui font les lois, et même celles et ceux qui rendent la justice. Alors on fait quoi ? Pour y voir plus clair et mieux comprendre comment dompter les algos avec la loi, l'invité du podcast est la talentueuse Aurélie Jean, docteur en sciences, entrepreneuse, ancienne chercheuse au MIT, tu sais le fameux Institute de Technology du Massachusetts, l'Institut de Technologie du Massachusetts, et en plus, elle est auteure du livre « Les algorithmes font-ils la loi ?» Bonjour Aurélie.
Bonjour BPC.
En janvier 2000, un certain Lawrence Lessig publiait dans la Harvard Magazine son fameux article « Code is law », le code fait loi. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et est-ce que ce sont les algos qui font la loi et qui fait vraiment la loi ?
Alors justement, je mentionne cet article dans mon introduction, dans mon livre « Les algorithmes font-ils la loi ?» C'est une manière en fait métaphorique, on va dire, de dire que les algorithmes en fait décide indirectement pour nous dans pas mal de choses et donc dicte quelque part la loi, nos comportements, dicte en fait nos réponses, nos réactions, etc. Cela étant dit, c'est beaucoup plus subtil que ça et surtout, moi, je parle beaucoup dans le livre que, bien évidemment, ma réponse est non, les algorithmes ne font pas la loi, donc je vais un peu contre cet article-là, mais en disant en fait qu'ils décident beaucoup, mais on peut faire en sorte qu'ils ne fassent pas la loi et surtout, on peut faire en sorte qu'on ne soit pas dans une jungle algorithmique où justement on ne saurait plus où ils interviennent et comment ils interviennent, et de ce fait, comment agir et réagir face à ces entités qui, par ailleurs, comme tu l'as très bien dit, les algorithmes n'ont pas de personnalité juridique, donc les responsables sont les humains autour. Et petit détail, dernier détail, c'est que la question de la responsabilité, quand on dit souvent « mais qui est responsable si c'est un incident, une erreur, un scandale ?», le problème, en fait, n'est pas nouveau. Il a toujours existé dans tous les outils de l'histoire, dans toutes les technologies, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour un appareil électroménager, que ce soit pour un scanner, etc. etc. Donc, en fait, le problème n'est pas nouveau. Donc, ne créons pas de nouveaux problèmes, puisque les problèmes existent depuis longtemps.
Selon toi, est-ce qu'on oscille finalement donc entre « code is the law » et ou plutôt « law is code » ?
Alors, surtout pas « law is code », je pense pas. Mais disons que c'est plus subtil que ça. « Code is law », c'est une manière très dramatique de dessiner un présent et un avenir qui est beaucoup plus complexe que ça. Cela étant dit, je comprends exactement les intentions de Lessig, qui étaient de mettre en évidence en fait, le fait qu'il nous échappe, que la technologie puisse nous échapper parce qu'on est dans l'incapacité de comprendre, de savoir lorsqu'ils interviennent de par leur intangibilité et surtout parce qu'il n'y a aucune régulation à l'heure actuelle qui va réguler, encadrer cette discipline. Seule la régulation sur les données à caractère personnel existe, qui est déjà un grand pas. C'est révolutionnaire puisque les algorithmes fonctionnent en partie, même principalement, donc sur des données. Et souvent des données à caractère personnel.
Question de Magali. Tiens, Magali, elle te demande, ils ne sont qu'un outil, mais ne sont-ils que ce que l'on fait d'eux, ces fameux algorithmes ?
Oui, surtout, il ne faut pas les imaginer comme des entités qui échappent au concepteur. Je pense que ce n'est pas ça. Pour répondre à Magali, par exemple, souvent j'entends dire, oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ces algorithmes, mais il faut quand même les déployer, les utiliser. Ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que c'est le cœur du sujet de mon livre, c'est-à-dire que je tourne le livre autour de la notion scientifique d'explicabilité. C'est-à-dire que, certes, on fait des algorithmes de plus en plus abstraits. Parfois, on ne comprend pas la logique parce qu'on ne la définit pas explicitement, nous, concepteurs, et qu'on va la définir implicitement par entraînement. Parfois, entraînement très abstrait comme sur réseau neuronal. Cela étant dit, on a des méthodes qui existent. Il y a une recherche, une discipline de recherche à part entière qui s'appelle XAI, l'explicabilité algorithmique, qui va chercher à appliquer des méthodes de calcul sur ces algorithmes avant l'entraînement, donc c'est-à-dire sur les data, grosso modo, pendant l'entraînement, ça je pourrais expliquer comment on fait, c'est rigolo, et après l'entraînement, une fois que l'algorithme est entraîné, pour aller extraire une partie parfois importante de l'explicabilité de la logique de l'algorithme pour justement mieux la maîtriser. Et en tant que concepteur, on cherche ça parce que si tu ne comprends pas la logique de ton algorithme, tu ne peux pas le réparer quand il y a un souci, tout simplement. Donc en fait, c'est beaucoup plus... En fait, dites-vous tout le temps, dès que vous entendez quelque chose sur cette discipline, surtout d'ailleurs un PPC, c'est que le monde n'est jamais binaire ou manichéen. Il n'y a pas « c'est blanc ou noir ». Il y a toujours des nuances et qu'il faut arriver à comprendre ces nuances pour aller amener de la connaissance dans le débat et donc de prendre des bonnes décisions.
Des nuances de gris, hein, les fameuses nuances
voilà.
De gris ou de couleur. Tu nous as dit qu'il y avait une possibilité, effectivement, l'explicabilité de le faire pendant. Comment ça marche ? Explique-nous comment
Alors,
ça fonctionne.
Je te donne un exemple, c'est ce qu'on appelle dans les algorithmes de catégorisation. Donc, on fait de l'apprentissage statistique, on va classer les scénarios en fonction de leur similarité statistique. Je te donne un exemple. J'ai donné cet exemple dans le livre, je le trouve rigolo et les gens comprennent très vite. Par exemple, lorsque tu vas accorder un prêt à quelqu'un, à la banque, tu vas entraîner ton algorithme, par exemple un algorithme de classification, donc de catégorisation, tu vas classer les décisions de prêt bancaire passées, donc dans le passé, en fonction de classes statistiques et du coup donc d'utilisateurs qui vont être des clients, hein, qui vont être soit on va leur voir accepter ou refuser un prêt. À ce moment-là dans l'histoire, tu sais pourquoi ils ont été acceptés ou refusés. Et donc en fait, tu vas introduire dans le jeu d'entraînement un champ supplémentaire qui va être la raison pour laquelle ces gens se sont vus accepter ou refuser un prêt bancaire. Donc tu rajoutes de l'explicabilité au sein de la donnée dans l'entraînement, ce qui va faire que lorsque l'algorithme va être entraîné, apprendre et créer des catégories de clients qui vont se voir accepter ou refuser le prêt, à la fin tu vas pouvoir faire des mesures statistiques qui par classe, tu vas dire bah, dans cette classe, je dis n'importe quoi, hein, 70% des clients se sont vus refuser un prêt et dans 60% de ces 70%, on remarque que la raison est la suivante. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, tu vas pouvoir a posteriori, quand tu vas projeter un nouveau client dans cette classification et tu vas savoir à quelle classe il appartient et du coup, tu vas pouvoir définir les chances qu'il a de se voir accorder un prêt, tu vas pouvoir du coup indirectement définir les raisons pour lesquelles statistiquement parlant, il y a des chances pour lesquelles ce prêt lui a été refusé ou accepté parce que tu auras analysé les raisons pour lesquelles dans le passé, les clients auront un prêt qui aura été accepté ou refusé. Donc là, c'est une manière où en fait, tu vas introduire l'explicabilité au sein de l'entraînement lui-même. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites pour augmenter le niveau d'explicabilité des algorithmes. Et cela étant dit, je ne dis pas qu'un algorithme qui n'est pas explicable ne doit pas être utilisé. Ce que je dis, c'est que c'est pas blanc ou noir et qu'il y a des techniques aujourd'hui pour aller extraire même en partie la logique et ce qui permet déjà d'avancer de manière plus éclairée.
J'ai une question plus personnelle. Qu'est-ce que tu as appris en écrivant cet ouvrage « Les algorithmes font-ils la loi » Tu as appris quoi ?
Alors moi, j'ai appris énormément côté juridique. Je vais pas te mentir, c'est-à-dire que moi, je ne connaissais... J'ai honte, je savais même pas comment on faisait une loi. C'est grave, hein, c'est très grave, je m'excuse. Hein, mais... Donc,
je crois que tu n'es pas la seule. Rassure-toi, tu n'es pas la seule.
Comme quoi, les cours d'éducation civique ne servent pas à grand-chose. Je pense qu'on devrait beaucoup plus faire des cas concrets, enfin, tu vois, d'étudier des lois qui ont existé, comment elles ont été créées. Mais bon, ça, c'est un avis, c'est autre chose, mais bon. Donc, c'est vrai que, voilà, comprendre comment les lois fonctionnent, comprendre quels sont les principes, les piliers de la justice française, la justice en général, c'est deux principes. C'est l'égalité de tous face à la loi et c'est le principe de transparence. L'égalité, je le savais à peu près, mais je ne me rendais pas compte des implications, en fait, de ça. Et les implications sont, par exemple, qu'on doit tous avoir les mêmes chances et les mêmes risques en fonction de son histoire, de son passé, d'avoir telle indemnité par rapport à tel préjudice, d'avoir telle condamnation, etc. Et je donne un exemple dans le livre, c'est le programme français DataJust qui aide à ça. Le deuxième principe, c'est le principe de transparence qui fait que quand toi, citoyen, bah, tu dois comprendre comment la justice fonctionne, tu dois comprendre ses mécanismes et surtout, tu dois comprendre les raisons pour lesquelles une décision judiciaire est ce qu'elle est vis-à-vis de toi. Pour deux raisons. La première, c'est comprendre le mécanisme et du coup comprendre pourquoi tu as été jugé coupable ou innocent, etc. Et deuxième raison, c'est pouvoir te défendre en retour. Et ça, le principe de transparence, j'ai vachement fait l'analogie avec la transparence, enfin, entre guillemets, la transparence algorithmique, hein, mais c'est plutôt ce que j'appelle l'explicabilité. Je explique bien dans le livre la différence entre les deux. Parce que la transparence algorithmique n'apporte pas énormément de choses en soi, il faut davantage tendre vers une demande de calcul d'explicabilité. Voilà, et donc c'est ça que j'ai beaucoup appris à travers le livre, en parlant avec des avocats, en lisant des livres moi-même, etc. Que, voilà, c'est surtout sur la justice.
Question tiens, d'Isabelle, les algorithmes nous veulent-ils du bien ? Si on tire tout ça, on entend parler de plein
bien
de
sûr.
Sujets, où finalement ils nous enferment un tout petit peu. Ils nous veulent du bien au départ ou à la fin ?
Alors, les algorithmes ne veulent rien, car encore une fois, ce ne sont pas des personnalités juridiques. Alors je sais, je me répète, hein, je m'excuse, hein, mais j'ai tout un morceau dans mon livre là-dessus, dans un des chapitres, où je parle des éléments de langage qu'on utilise et qui déforment notre vision du monde. Les algorithmes, en fait, apportent des choses bonnes, moins bonnes, mauvaises. Et par exemple, lorsqu'on parle d'algorithmes, on parle souvent de l'effet bulle, on parle souvent des réseaux sociaux. Ce qui me désole parce que, premièrement, tous les algorithmes sur les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Deuxièmement, Tous les algorithmes dans le monde ne sont pas ceux développés pour les réseaux sociaux. Tu vois, moi, je développe aucun algorithme pour les réseaux sociaux. Tu vois, je développe des algorithmes pour dans le domaine médical, dans le domaine de cancer du sein. Je fais dans le domaine financier pour une banque. Actuellement, je travaille pour un parfumeur. Enfin, tu vois, je fais tout sauf du réseau social. Ce qui ne veut pas dire que je n'en ferai pas dans le futur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'en ai jamais fait encore. Et je dis ça parce que, en fait, on est typiquement biaisé par notre usage quotidien et la forte visibilité des algorithmes des réseaux sociaux dans les médias qui font qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui existent. Et ce n'est pas vrai. Et il faut vraiment insister là-dessus parce que la majorité des algorithmes, en fait, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tu vois. Et donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Surtout, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est que rien n'est une fatalité. C'est-à-dire que même l'effet bulle sur les réseaux sociaux, moi, quand j'entends, on a levé les bras en disant, bah, on ne peut pas faire autrement. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il va falloir que vous revoyiez aussi votre modèle économique qui est basé aujourd'hui principalement sur la consommation accélérée, donc sur des temps courts, de contenu en fait massif sur ces réseaux. Donc, il va falloir revoir le modèle économique de façon à pouvoir justement faire que l'effet bulle n'alimente pas ce modèle économique.
Tu nous as parlé de ton algo sur la recherche pour le cancer du sein. Isabelle t'a dit, explique-nous un peu plus ton algo en lien avec le cancer du sein, c'est possible?
Oui, alors je ne vais pas en parler trop parce qu'en fait, on est en train de nous protéger, qu'on est en train de lever des sous. Et je me suis rendu compte, j'en ai parlé à une émission de télé, ça fait un gros buzz. Je me dis, oh là là, faut pas trop que j'en parle parce qu'on est en pleine levée, quoi. Mais juste rapidement, en fait, c'est un algorithme que j'ai développé avec des partenaires donc, en Israël. On va, sans dire comment, bien évidemment, dans les détails, mais c'est un modèle hybride, donc une grosse partie d'apprentissage et une partie mathématique, mathématisable. Et c'est en fait un modèle qui va aller détecter le cancer du sein 2 ans, plus de 2 ans avant qu'on voit la tumeur sur la mammo. Donc en fait, c'est la captation signaux faibles. Parce que en fait, juste pour que les gens sachent, il y a des cancers qui sont lents. Le cancer du sein en fait partie. Il y a certains types de cancers du sein qui ne sont pas lents, mais c'est rare. Donc du moment où vous voyez la tumeur sur une mammo, en fait, ça met 2 à 5 ans à se développer. Et donc le médecin, docteur Philippe Inilouche, avec qui je travaille, m'avait dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, au lieu d'aller détecter le signal fort, enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que j'ai interprété après, hein, au lieu d'aller détecter un signal fort sur une mammo, est-ce qu'on ne peut pas détecter un signal faible? Et en fait, la détection de signaux faibles, c'est toute une discipline hein, à part, et c'est très compliqué parce qu'il faut savoir différencier le signal faible du bruit, etc., etc. Et donc, voilà, donc on a réussi et ça marche, et notre techno fonctionne. Et donc, on est en train
Canon.
de faire grandir cette techno.
C'est canon. Tiens, on va parler un peu de data scientist aussi, de ce métier que tu connais bien. Question de Jean-Emmanuel, pourquoi faut-il être abstrait quand l'homme a besoin de concret? Et que cherche-t-on à sortir du cadre?
Alors, c'est une excellente question. J'ai expliqué pourquoi on devient abstrait. Pour 2 raisons. La première, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à être concret sur un problème à résoudre. Je m'explique. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas soit mathématiser, soit développer. On ne peut pas le modéliser concrètement. Je donne un exemple. Je donne cet exemple dans le livre parce que je trouve qu'il est assez parlant. Reconnaître un chien sur une photo. Quand tu dois développer un algorithme qui identifie un chien sur une photo, c'est un problème qui doit être résolu de manière abstraite. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas expliciter ce qu'est un chien. Tu vas me dire, bah, si Aurélie, c'est facile, il a une fourrure avec une texture particulière sur l'image, il a 2 oreilles, nanana. Mais je peux t'assurer que ça ne va jamais marcher, ça. Ou dans la majorité des cas, enfin, même si ça marche dans 60% des cas, ça ne va pas marcher dans les 40% restants. Pourquoi? Tu ne vas pas reconnaître un chien qui a une oreille, tu ne vas pas reconnaître un chien qui a une position particulière sur la photo. Surtout, tu ne vas pas différencier un chien, d'un chat, d'un renard ou d'un loup. Donc ton truc ne va pas marcher. Donc du coup, on va sortir du domaine explicite mathématique pour aller rentrer dans le domaine abstrait implicite, donc de l'apprentissage. Et souvent, donc dans ce cas-là, c'est de l'apprentissage sur réseau neuronal, donc encore plus abstrait, pour arriver concrètement, enfin de manière abstraite, mais au final, concrètement, on va obtenir des bons résultats, à savoir est-ce qu'il y a un chien ou pas sur cette photo. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on tend vers l'abstrait parce qu'en fait, on est dans l'impossibilité d'expliciter, parfois de mathématiser le problème qu'on souhaite résoudre. Et donc ça, c'est les principales raisons. La deuxième raison, c'est les questions d'efficacité. C'est-à-dire que même si tu crées un modèle mathématique ou explicite qui est capable de reconnaître 80% des chiens sur une photo, tu as les 20% restants qui font que parfois le résultat obtenu peut amener à des erreurs graves. Dans le cas d'un chien, c'est pas très grave, mais si tu le faisais sur l'identification d'individus, les 20% restants, qu'est-ce qui va se passer comme erreur? Donc du coup, on est obligé de rentrer dans l'abstrait pour résoudre un problème qui est difficilement mathématisable. Donc voilà, donc l'abstrait n'est pas mauvais en soi, au contraire, on est obligé de le faire, en fait, on n'a pas le choix, bien souvent. L'idée, c'est de contrôler cette abstraction pour s'assurer, en fait, qu'on ne crée pas de biais, qu'on ne va pas faire des erreurs, etc., etc.
Justement, tiens, Vincent nous dit, est-ce que tu peux nous parler un peu des biais des algos, c'est-à-dire que pour qu'on en parle correctement, parce que je pense qu'on entend aussi
Bien
parler beaucoup de
sûr.
choses là-dessus et peut pas forcément en comprenant les tenants et aboutissants, les biais des algos.
Alors, c'est vrai qu'en plus, PPC, pour ajouter à ça, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur les algorithmes et beaucoup d'approximations et beaucoup de scoopisme. Moi, ce que j'appelle le scoopisme, tu vois, c'est-à-dire qu'on met
Le
des buzzwords,
scoopisme,
mais je ne sais
j'ai
pas comment on
appris
a
un
appris
truc ce matin,
ça.
le
Non, mais c'est un mot que j'ai
scoopisme.
inventé, hein. Tu peux le réutiliser, hein, je t'autorise.
Stop, pas
Donc, le
corrigeant,
biais.
on va le
Voilà,
copyright.
scoopisme.
Stop.
Donc, en fait, le biais algorithmique, on a tous des biais cognitifs, d'accord? On voit les êtres et les choses de manière très différente en fonction de qui on est, de notre histoire, de notre langue, de notre classe sociale, de notre genre, de notre orientation sexuelle, etc., etc. On a tendance, et ça, c'est pas nouveau, hein, à transmettre nos biais cognitifs aux choses qu'on conçoit. Ça peut être un texte, ça peut être une peinture, un dessin, un objet, ça peut être un algorithme. Donc, on va transmettre ce biais cognitif à l'algorithme de plusieurs manières. Soit à travers les critères explicites qu'on va définir dans l'algorithme. Rappelez-vous, on peut mathématiser un problème, on peut définir des structures conditionnelles. Si telle condition est appliquée, alors j'applique telle action. Donc, on va transmettre ces biais. On peut aussi transmettre ces biais cognitifs dans le jeu de données qu'on va choisir pour entraîner ou calibrer l'algorithme. Par exemple, dans le cas d'identification d'un chien sur une photo, tu peux par exemple oublier de mettre des loups et des chats. Par conséquent, l'algorithme va créer un biais, c'est qu'il va reconnaître le chat ou le loup comme un chien, par exemple. Ou pas du tout, il va le rejeter. Pas forcément toi, ça dépend comment l'algorithme se comporte. En tout cas, tu crées un biais. Donc c'est ce qui arrivait par exemple dans les premiers algorithmes de reconnaissance faciale qui ne reconnaissaient pas les personnes de peau noire, tu vois. Parce qu'il n'y avait que des photos d'individus blancs qui avaient été données parce que les développeurs et concepteurs étaient principalement blancs. Ce n'est pas la faute des concepteurs, hein. Strictement, c'est plus complexe que ça, j'explique dans le livre, mais voilà. Tu peux aussi introduire des biais dans les tests que tu fais pour valider ton algorithme. Ça, c'est très important parce que souvent, on croit avoir tout bien fait, puis à un moment, on va faire des tests sur l'algorithme. Bah, les tests aussi peuvent être orientés, biaisés, et on peut oublier de tester l'algorithme dans certaines situations. Voilà, donc ça devient un biais algorithmique qui mène éventuellement à ce qu'on appelle de la discrimination technologique, à savoir qu'on va écarter une partie des scénarios des individus de l'usage de cet algorithme. Je reviens encore sur le cas des algorithmes de reconnaissance faciale qui écartaient les personnes à peau noire.
Si Mohamed te demande, pour lutter contre les biais, faut-il créer des bibliothèques d'algorithmes reconnus, partageables, voire réglementés, selon toi?
Oui et non. Alors déjà, premièrement, il y a déjà des algorithmes pré-entraînés qui sont publics. Pré-entraînés voulant dire qu'ils sont déjà pré-entraînés sur un jeu de données, en particulier sur l'analyse sémantique, ce qu'on appelle le NLP, ou même sur l'identification sur image. Donc ça existe déjà. Deuxièmement, on ne peut pas avoir que ça, parce que sinon tu vas freiner l'innovation. Si moi, demain, on me dit, Aurélie Jean, tous les algos que tu as développés, en particulier celui de ma dernière boîte, tu dois les publier publiquement. En fait, la transparence va freiner l'innovation. Il faut davantage appliquer des bonnes pratiques de gouvernance, entre autres à travers l'explicabilité et autres, pour s'assurer que les algorithmes fonctionnent bien, au lieu d'imposer la transparence strictement. Deuxièmement, tu peux sans aller demander le partage d'algo, et encore une fois, ça existe, hein. Moi, j'ai partagé des algorithmes qui n'avaient aucun apport économique, tu vois, pour moi. Dans le cas des réseaux sociaux, ce serait par exemple les algorithmes de détection de contenu haineux ou les algorithmes, tu vois, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ce sont pas, enfin, ils vont pas réussir à résoudre le problème seul dans leur coin. Donc, autant partager ces algos pour arriver de manière commune, collégiale, à résoudre. Après, tu peux partager des jeux de données. Il y a des grands jeux de données qui sont publics aujourd'hui, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas biaisés. Je donne l'exemple dans le livre. Tu as des jeux de données, en fait, où on croit, parce qu'ils viennent du net, de tous les comportements sur Internet, ils sont forcément objectifs. Bah, détrompez-vous, il y a plein d'études qui ont été faites qui ont démontré que c'était des jeux qui étaient quand même biaisés. Donc, c'est intéressant. Il faut absolument que vous. Enfin, je dis absolument lire mon livre, enfin, ça fait un peu. Mais voilà, mais en fait, je donne des exemples concrets où, en fait, c'est toujours plus compliqué que ça et que surtout, il ne faut pas croire qu'il y a une solution unique. Il y a plusieurs solutions qui, mises ensemble, vont permettre de tacler ces challenges qui sont vraiment des défis importants pour notre civilisation.
Dernière question, c'est celle de Christian. On ne peut évaluer la logique entière d'un algo. La manière dont il est pensé, entraîné, testé, un algo devrait être régulé. Voit-on arriver à un encadrement des pratiques de développement?
C'est une excellente question, parce que dans cette question, il y a toutes les étapes en fait, de gouvernance qui, pour moi, sont critiques. On ne peut pas réguler un algorithme strictement car on ne peut pas l'évaluer. Enfin, en pratique, tu ne peux pas réguler quelque chose que tu ne peux pas mesurer. Enfin, c'est compliqué. Cela étant dit, je peux réguler ce que vous dites ici, c'est à savoir les bonnes pratiques de développement, la gouvernance, c'est-à-dire que comment il doit être pensé, comment il doit être développé, quel type de test. Alors, ce n'est pas strictement la loi ne doit pas dire quel type de test tu dois faire passer, parce que la loi doit rester souple, mais d'imposer en fait des pratiques de test. d'imposer des pratiques de test vis-à-vis des ethnicités, par exemple, d'imposer en fait des tests qu'on appelle en backtesting, c'est-à-dire qu'une fois que l'algorithme est utilisé, continue à tester l'algorithme. Parce que, en fait, clairement, les boîtes n'ont pas toutes les bonnes pratiques, parce que quand on voit des cas de scandale, par exemple, je donne un exemple, ce qui est arrivé sur Twitter récemment, même si cet été, même s'ils ont été assez bienveillants, parce qu'en fait, ils ont fait ce qu'on appelle un bug bounty, donc en fait, ils ont montré leur algo pour que les gens puissent le tester et de trouver les erreurs, mais par exemple, on s'est rendu compte que l'algorithme de recadrage de photos, recadrage automatique de photos sur Twitter, privilégiait, par exemple, entre deux individus, privilégie toujours la femme blanche, jeune, belle. Mince, c'est un souci, si et je comprends pas que, tu vois, quand il y a des tests comme ça, enfin, il faut ensuite mettre le test dans sa batterie de test. Un autre exemple sur Facebook, c'est par exemple, ils se sont rendu compte que quand tu regardais une vidéo, dans les vidéos qui t'étaient suggérées, si tu regardais une vidéo avec des personnes de couleur noire, tu te retrouvais avec des vidéos suggérées de singes. Là encore, je ne comprends pas qu'après l'incident de Google en 2015 qui identifiait des personnes de couleur comme des gorillas, donc des singes, je ne comprends pas comment un test sur la couleur de peau ne fait pas partie des tests automatiques de tous les outils qui fonctionnent sur des vidéos ou des photos contenant potentiellement des individus. Donc si tu te sens bien qu'il y a un problème de gouvernance, tu vois, il y a un problème de test, clairement. Pour finir la question du monsieur, c'est qu'en fait, oui, l'Union européenne est en train de réfléchir à réguler cette discipline, mais il faut surtout faire très attention à être aussi révolutionnaire que dans le cas du RGPD, à savoir, il faut autoriser en encadrant fermement, et non pas interdire en encadrant fermement, il faut autoriser, et surtout, il faut bien le faire. Il ne faut pas réguler les algorithmes, mais il faut réguler les bonnes pratiques. Il ne faut pas interdire bêtement, sauf dans des cas majeurs, mais plutôt essayer d'imposer aux acteurs d'atteindre un tel niveau, en fait, de conformité, que ça va les forcer en fait à pouvoir prévenir de toutes les erreurs et voilà, et surtout ne pas freiner l'innovation, l'encourager. En fait, grosso modo, être aussi révolutionnaire qu'on l'a été avec le RGPD.
Ça laisse un beau challenge. Mille merci, ça sera le mot de la
Voilà.
fin. Moi, ce que j'ai noté, c'est que la conformité est une force. On pourrait dire la conformité embête tout le monde. Ben non, la conformité est finalement une force. Mille merci, Aurélie, d'avoir été présente ce matin.
Merci à
C'est un
toi.
bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Formidable. Tu fais un bien fou à l'algo parce que tu viens de faire un taux de complétion de ce podcast qui va faire en sorte qu'on va rentrer dans les classements chez Apple et ça va être un vrai bonheur. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'ici. On se retrouvera demain matin pour un prochain épisode. On va parler aussi d'intelligence artificielle. On va parler de l'intelligence artificielle et de son impact au travail. L'invité du podcast sera Thomas Solignac, c'est le CEO et cofondateur d'une startup qui développe de l'intelligence artificielle de compréhension du langage pour répondre à des usages concrets au sein des métiers. Bon, elle s'appelle Golem AI, on en parlera demain matin. Mille merci à vous tous d'avoir été présents pendant ce direct, c'est un vrai bonheur. On se retrouve demain matin pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao.